pour 10 ans de fidélité. Nous rendons grâce pour la fidélité que le Christ nous donne. Nous venons chacun avec ce que nous sommes. Et le Christ vient nous donner cette force, cette grâce dont nous avons tant besoin pour être fidèles. Le temps de l'Avent est un temps où nous accueillons la grâce que Dieu nous donne par les mains de sa mère Marie. Demandons à Marie d'ouvrir toujours plus nos cœurs à la grâce de son Fils. Que nous soyons d'humbles serviteurs, d'humbles adorateurs, fidèles et joyeux.
Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, notre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
réseau mondial de prière du pape. Voilà. Réseau mondial. Et donc, vous voyez, moi, je suis simplement circonscrit à la France, mais la France, ça comprend aussi les dom-tom, et donc c'est pas désagréable d'avoir des missions qui peuvent conduire voilà, quelques milliers de kilomètres. En septembre dernier, j'étais justement à Martinique. Ce réseau mondial de prière, eh bien, c'est un des buts, un des enjeux, c'est de réveiller le sens missionnaire de la prière de tous les baptisés, hein, quels qu'ils soient, quel que soit leur enracinement, leur famille spirituelle de rattachement et tout ça, voilà, de rappeler et même de faire découvrir pour un bon nombre, hélas, parce qu'ils ne le savaient pas ou ils l'avaient oublié, la prière a une portée missionnaire. Et chacun peut être missionnaire par sa prière. Voilà, donc mon rôle, c'est donc d'aller à la rencontre de communautés locales, de groupes paroissiaux, de groupes de prière pour initier dans une expérience auprès du cœur de Jésus, parce que c'est dans le foyer du cœur de Jésus que se découvre ce sens missionnaire par la prière à laquelle nous sommes tous appelés. Et donc, c'est aussi cette œuvre est démarrée, a démarré, simplement pour vous donner juste quelques petites indications historiques, en 1844, donc par des jésuites qui étaient en formation, quand ils ont pris conscience qu'ils n'avaient pas besoin d'attendre d'être envoyés aux extrémités de la terre pour devenir missionnaires, mais ils pouvaient déjà l'être par leur prière, dans l'offrande, dans le cœur de Jésus. Et puis donc ça s'est répandu comme une traînée de poudre dans toute la France, puis plus largement que la France, et puis donc c'est devenu, et ça tend à devenir aujourd'hui, un service pontifical pour l'Église universelle. Et vous savez que l'on voit trace de ce réseau. Alors si vous êtes abonné à Prions en Église, c'est page 4. Si vous êtes abonné à Magnificat, c'est page 5 ou 6. Lorsqu'il y a cette petite mention, prier avec les intentions du Saint-Père. Mais hélas, bien souvent, on n'y fait plus du tout attention et on passe directement dans la liturgie du jour et on zappe cet appel à la prière missionnaire. L'enjeu, donc, c'est de le redécouvrir. Et je suis heureux de partager avec vous donc, ces 10 ans de chaîne de prière ininterrompue, d'adoration, parce que c'est dans l'adoration aussi que ce sens missionnaire de la prière peut se réveiller et tenir la durée, la persévérance. Et depuis que je suis ici, là, à Paris, je vous témoigne que lorsque je repars en mission, eh bien, je me sens porté par ce flux de prière qui vient d'ici et qui rayonne au-delà de ce que l'on peut percevoir ou de ce que l'on peut sentir. Ça, je peux vous témoigner que vraiment, la prière que vous alimentez ici, moi j'en sens les bénéfices sur la route, mais pas seulement sur la route, dans les différents lieux que je suis amené à rencontrer. C'est vraiment un très beau ministère, un vrai ministère, un vrai service que vous rendez, non seulement pour l'Église locale, mais pour toute l'Église et pour le salut du monde. Et c'est peut-être cela que je voudrais simplement vous souligner. Tu me laisses combien de temps, Godefroy ? Dis-moi. Un quart d'heure pour la sœur. Voilà, donc ça sera juste quelques petites pistes que j'avais envie de vous partager. Justement sur l'importance de cette mission à laquelle vous participez et qui nous fait plonger dans une mission
encore plus grande.
Encore plus grande.
Oui.
Je suis encore novice, je suis jeune jésuite, j'ai quand même 25 ans de vie religieuse, donc j'approche Jean-Rodolphe, je ne sais pas où tu es, je ne suis pas très loin. Il y a 2 images qui m'ont habité en pensant à notre rencontre de ce soir, qui sont venues et qui m'ont habité là tout l'après-midi en particulier. C'est, vous savez, cette grande vision du prophète Ézéchiel, chapitre 47, la vision du fleuve, ou d'abord du petit ruisseau qui se met à couler du côté droit d'un temple mystérieux, étincelant, mais mystérieux tout de même, et associé par une autre parole qui m'habitait, qui était celle de l'appel de Jésus aux pêcheurs encore embarqués sur sa barque, Pierre, avance au large, avance en eau profonde. Avance en eau profonde. Et il me semble que ce que nous vivons ici, dans ce chemin d'adoration continue, eh bien, c'est de rentrer dans ce fleuve, si petit soit-il au départ, et plonger en eau profonde pour une fécondité apostolique, une fécondité missionnaire. Alors, je ne sais pas si vous êtes interrogé par cette vision d'Ézéchiel, il y a quelque chose de surprenant dans la description que le prophète nous donne, Vous voyez, donc ça commence par un petit ruisseau, et puis il marche un peu, on mesure combien ? 1000 coudées. Et il a de l'eau, où ça ? Aux chevilles. On mesure encore 1000 autres coudées, et là, de l'eau aux genoux. 1000 coudées, vous savez qu'est-ce que ça représente ? C'est pas grand-chose. 1000 coudées, ça veut dire 1000 fois la longueur du coude. Ça fait grosso modo 400 mètres. Pas terrible comme distance. Eh bien, vous pouvez vous dire, mais comment ce fleuve, en 400 mètres de distance, il passe d'une petite flaque d'eau à quelque chose qui déjà monte au genou. Et 400 mètres plus loin, ça monte au niveau de la hanche. Et 400 mètres encore plus loin, vous voyez, 1 km 200 grosso modo, ça devient déjà infranchissable. Bien, c'est un pasteur, un ami protestant, qui nous a fait découvrir le sens de cette progression. Comment faites-vous pour que l'eau monte si rapidement jusqu'à vous submerger? Eh bien, c'est en prenant justement, progressivement, l'attitude d'adoration. Au départ, vous êtes effectivement debout. Et en avançant, eh bien, dans l'expérience, en avançant aussi sur le chemin de l'expérience de Dieu, eh bien, vous mettez à genoux. Plus vous plongez dans l'expérience de Dieu, eh bien, il ne suffit pas d'être à genoux devant le Seigneur, c'est allongé devant lui. Et vous avez toute la posture de l'adoration profonde qui se déploie, voilà, avec ce fleuve mystérieux qui commence tout petit, mais qui du coup, même tout petit, peut vous submerger et vous permet d'entrer en eau profonde. Submergé par cette eau vive qui va jusqu'à guérir les eaux de la mer morte. Ce fleuve qu'on va retrouver à la toute fin de notre Bible, dans la vision de Saint Jean à l'Apocalypse, vous savez, c'est exactement la même vision, sauf que maintenant on identifie d'où vient ce fleuve d'eau vive. Ce temple, en fait, c'est l'agneau. C'est de l'agneau que coule ce fleuve de vie. Et il nous est précisé que non seulement ceux qui s'approchent du fleuve de vie sont guéris, mais les nations entières sont guéries. C'est plus seulement une expérience individuelle, il y a quelque chose de collectif qui est engagé. Cette première image donc, qui m'a marqué, avec donc, cet appel de Jésus, avance en eau profonde. Et vous voyez que du coup, cette expérience de l'adoration nous place immédiatement dans le cœur du cœur, dans le cœur du mystère de Dieu, le cœur de Dieu, d'où coule ce fleuve d'eau vive, le côté évidemment transpercé de Jésus. Et à la mesure de notre attitude d'adoration, nous plongeons dans la mission même de Jésus. Et c'est une mission donc qui nous déborde. Vous voyez, plus nous rentrons dans cette, et nous approfondissons l'attitude d'adoration, et plus cette mission nous submerge et nous déborde. Et elle nous requiert totalement, totalement, pour être avec lui. Et vous voyez bien que donc, l'enjeu de notre présence à l'adoration, ce n'est pas une présence simplement pour, premièrement, notre confort. Ça me fait du bien, c'est bien pour mon salut. Il y a quelque chose de plus large. Notre présence en adoration devant le Saint-Sacrement, c'est pas uniquement aussi pour le confort, on pourrait dire, de Jésus. C'est pour participer avec Jésus à sa mission. Et vous pouvez donc, dans cette attitude, laisser revenir en résonance musicale, vous savez, il y a comme des harmonies qui peuvent nous faire entendre ensuite et nous renvoyer sur d'autres passages bibliques. Cette invitation de Jésus lui-même, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Mais mettez-vous à l'école de mon cœur, car je suis doux, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Prenez sur vous mon joug, car mon joug et mon fardeau est léger. Quand vous réentendez dans cette dynamique, cette invitation de Jésus, vous voyez qu'il y a trois temps dans cet appel de Jésus. Se rapprocher de lui pour trouver effectivement le repos. Le repos se trouve en lui déposant nos fardeaux, donc nos soucis, tous les trucs qui nous encombrent, tous les trucs qui viennent nous alourdir, voilà, au long du quotidien. Donc régulièrement, nous venons auprès de Jésus. Mais ce n'est pas uniquement pour déposer et ensuite être libéré. Ah Seigneur, ça m'a fait du bien et je repars léger. Non. Si je repars léger, c'est aussi avec ton fardeau, avec ton joug, porté avec toi. Et ça, c'est au pied du Saint-Sacrement, c'est dans l'adoration que nous recevons. Il y a comme cet échange, voilà, je te remets, moi, ce qui me fait courber, et toi, gracieusement, tu me fais partager à quelque chose, quelques aspects de ta mission pour le salut du monde. L'enjeu de la mission qui se poursuit aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que le salut du monde qui se poursuit. Il a été gagné déjà, une fois pour toutes, par l'offrande de Jésus, mais mystérieusement, il se prolonge jour après jour, il se joue jour après jour avec notre alliance, notre participation avec Jésus. Vous voyez donc ces trois temps que l'adoration nous fait découvrir ou revivre à chaque fois, et l'importance de nous tirer de nos assoupissements réguliers qui peuvent venir. Alors je ne parle pas des assoupissements qu'on peut avoir pendant l'adoration ou, ouf, pendant 5 minutes, peut-être plus, une heure, vous entendez une respiration prolongée, profonde. Il n'y a pas à avoir peur de ces assoupissements. Le Seigneur comble son bien-aimé quand il dort. Psaume, vous savez. 126, j'oublie toujours le chiffre, mais il existe bien. C'est pas une erreur. Le Seigneur comble son bien-aimé quand il dort. Et le pape François, vous savez, lui-même, dit et redit, ne crains pas, voilà. Si tu t'endors, tu es devant le Seigneur. Et le Seigneur poursuit son œuvre, mais il sait que tu es là et que tu es disponible pour son œuvre. Non, il y a un autre assouplissement dont il faut faire attention et nous réveiller. C'est l'endormissement qui peut être fatal, vous savez, lorsque vous conduisez une voiture. Si vous dormez vraiment, vous vous arrêtez et vous prenez le temps de dormir. Et c'est bon. Mais si vous n'y prenez pas garde, lorsqu'une certaine fatigue se met en place, eh bien, vous conduisez et ça devient automatique. Et ça devient de plus en plus automatique, mais vous n'avez pas de boîte automatique. Et c'est là où vous risquez de vous prendre un mur, un arbre, pire, la voiture qui arrive en face. Il y a quelque chose qui devient tellement mécanique que vous n'y faites plus attention, mais vous avez l'impression pourtant d'être encore éveillé, mais en fait vous êtes déjà endormi. Et vous voyez, ça c'est le piège mortel pour le conducteur de voiture. C'est assez... cet endormissement-là, dont il faut faire attention, et qui vient toujours dans la vie spirituelle, c'est lorsqu'on commence à rentrer dans un certain fonctionnement machinal, automatique, hein, où il n'y a plus du tout de saveur, et simplement on enchaîne les choses. Alors là, il y a quelque chose à se dire, bon, j'ai une autre posture à prendre pour retrouver cet éveil et cette présence ardente auprès du Seigneur. Vous voyez ? Un danger de cet assouplissement. Et avec cet avertissement, on peut rejoindre le message que Jésus avait transmis à Marguerite Marie, vous savez, dans la grande apparition, celle de juin 75. Lorsqu'il dit « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit qu'ingratitude », voilà. Souvent, dans le message que l'on reçoit de parémonial ou qui est rapporté à l'extérieur, on s'arrête là. Mais vous savez bien qu'il se poursuit avec il y a une ingratitude plus grande, plus douloureuse encore. Voilà, ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en usent ainsi. De quoi ? Eh bien, de l'ingratitude, des irrévérences et sacrilèges qui venaient de... Et vous voyez que nous avons toujours à garder et à maintenir éveillée cette vigilance en nous qui nous empêche d'être des parvenus ou d'être des installés. Ça y est, j'ai mon service, j'ai mon horaire, et maintenant, ça y est, j'y suis bien, mais pouf, il y a quelque chose de complètement machinal, automatique, qui viendrait nous faire tenir, et qui insensiblement, nous croyons être au service du Seigneur, mais progressivement, on se coupe de lui, et on se reprend simplement, voilà, nos préoccupations, et nous sommes centrés sur nous-mêmes. Et finalement, ce n'est plus l'œuvre du Seigneur que nous venons servir, c'est notre œuvre que nous voulons qu'il serve. Voilà. Seigneur, et vous le voyez dans la manière que vous pouvez avoir de vous adresser au Seigneur, qui est, où finalement il peut y avoir des reproches, Seigneur, ou quelque chose d'un peu dur qui vient dans votre prière et qui vient... Bon, Seigneur, il faut que tu fasses une parole qui n'est plus tellement ajustée. Et vous ordonnez au Seigneur, finalement, de faire ce que voudriez qu'il fasse à votre place. Et donc là, c'est plus à votre œuvre que vous voudriez qu'il soit que vous attachez à son service. Vous voyez, ça, c'est un point de vigilance qu'il nous faut avoir, mais qui est, je dirais, le combat de la vie spirituelle ordinaire. Mais simplement, il faut le savoir pour ne pas en avoir peur et pour pouvoir trouver, du coup, des attitudes, des postures qui vont nous permettre de reprendre conscience et, voilà, de nous bouger. De nous bouger, de nous remettre dans ce chemin simple de purification. Voilà, la purification, c'est pas uniquement pour les autres ou pour ceux qui démarrent, alors que moi, ça y est, j'ai 10 ans d'expérience et ça y est, je suis bien avancé. Non, je suis toujours à recommencer, l'impression de recommencer, hein, dans cette attitude d'humilité, de simplicité, de pauvreté, de mendicité auprès du Seigneur. Voilà. Déjà, viens me purifier, viens me guérir, viens me libérer. Voilà. Toujours revenir dans cette attitude fondamentale. Mais qui n'est pas un retour en arrière, simplement qui est cette attitude qui va nous permettre de continuer à avancer. C'est Saint Grégoire de Nice, il me semble que c'est de lui, qui disait « Dans la vie spirituelle, on avance de commencement en commencement. » Voilà. Donc, lorsqu'on commence à avoir l'impression ou un sentiment d'être « ça y est, je suis bien arrivé, je suis bien installé, maintenant ça roule, oulala, là, il doit y avoir un warning qui s'allume en nous pour nous dire « là, attention, la chute, elle a même déjà commencé. » Elle a déjà commencé. Non, non. Si tu es vraiment dans le progrès spirituel, tu seras toujours dans ce sentiment de démarrer et d'aller de commencement en commencement. Seigneur, tu m'as purifié. Seigneur, j'ai encore besoin d'être purifié. Non pas parce que ce que tu aurais purifié, je n'y crois pas et j'y reviens en arrière. Non, non, c'est parce que chemin faisant, j'ai toujours besoin de me mettre, voilà, en humilité sous ta grâce réparatrice. Et alors, je peux continuer à recevoir de toi ton fardeau, ton joug que tu veux partager avec moi. Et c'est comme ça que nous pouvons aussi entendre de manière nouvelle un des messages aussi donnés à Marguerite Marie, le désir de Jésus. C'était, vous savez, en l'année précédente, en juin 1674, où Jésus faisait regarder à Marguerite Marie, regarde ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'a reçu qu'indifférence. Toi, au moins, essaie de suppléer. Il y a quelque chose de ton engagement qui est requis, qui est demandé. C'est-à-dire, essaie d'y suppléer. Ça ne veut pas dire, je vais essayer et puis je vais voir si ça marche ou ça marche pas. Non, non. Ça veut dire plutôt, vas-y humblement, modestement, en ayant conscience, effectivement, de tes limites, de tes capacités qui ne sont pas extensibles à l'infini. Ben voilà, moi je peux donner une heure à tel moment, tiens, mais je rêverais, oh, vraiment, mon offrande serait parfaite au Seigneur si j'allais de 2h à 3h du matin. Mais en fait, c'est quelque chose qui est complètement impossible. Eh bien, qu'est-ce qui est possible? Peut-être 10h, 11h. Eh bien, commence par 10h, 11h. Vous voyez, parfois, on se projette des choses en se disant, pour être vraiment au service du Seigneur, il faut que je fasse comme ceci et comme cela, mais ça ne respecte pas ce que je suis en vérité. Et du coup, on se projette des objectifs très bons en eux-mêmes, mais que je ne vais pas pouvoir tenir dans la durée. Eh bien non. Essaie de suppléer, ça veut dire commence humblement à partir de là où tu peux vraiment tenir. Modestement. Et progressivement, tu pourras agrandir. Des choses pourront se déplacer. Des choses nouvelles, des choses qui, au départ, pouvaient paraître impossibles, vont se découvrir possibles. Toi, au moins, essaie de suppléer. Mais dans le petit que tu restes, dans le petit moment que tu engages, vas-y totalement. Voilà. L'enjeu, c'est de pouvoir s'y engager totalement, radicalement, pas à moitié. Ne pas être des êtres tièdes. Et vous voyez, on remonte au final les messages donnés à Marguerite Marie. On peut revenir à un des premiers, la première grande apparition qui lui a été donnée de vivre, avec cette déclaration d'amour de Jésus. Mon cœur est passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier. Vous la connaissez, hein, cette parole de Jésus à Marguerite Marie. Et qui se poursuit, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de mon ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen. Et là, nous réentendons combien Jésus, le Sauveur du monde, veut poursuivre son œuvre de salut dans notre monde d'aujourd'hui par nos moyens, en passant par le cœur et la présence de chacun. Et donc c'est ça qui se joue dans notre présence à l'adoration eucharistique, à l'adoration du Saint-Sacrement. Cette remise devant le Seigneur, ce travail de dépouillement intérieur, mais pour poursuivre, pas seulement pour être mis en situation confortable, ou passer un chaud moment avec le Seigneur, qui me fait du bien, mais passer un bon moment ensemble, oui, c'est bon par moment de pouvoir l'éprouver. Mais l'enjeu, c'est pour pouvoir répandre les flammes de l'ardeur, de l'ardente charité du Seigneur, hein, qui veut passer par le cœur de chacun. Et vous voyez que du coup, dans notre présence silencieuse, gratuite, devant le Saint-Sacrement, devant en posture d'adoration, c'est l'attitude que nous vivons dans chacune de nos eucharisties qui nous est donnée de revivre et de prolonger et peut-être d'approfondir. Vous savez, dans la liturgie eucharistique, elle se déroule avec le rituel qui est prévu et donc qui a son rythme. Et donc on ne peut pas s'arrêter à toutes les étapes, mais il faudrait s'arrêter à toutes les étapes pour les laisser aussi pour plonger en profondeur. Et vous savez qu'au moment de la prière eucharistique, il y a cette demande que nous demandons, que le célébrant dit au nom de toute l'Assemblée, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, ou à la louange de ta gloire. Tu nous as choisis pour servir en ta présence. Ce « tu nous as choisi », il est à entendre aussi dans l'aujourd'hui, dans le concret, dans le présent de nos vies. Tu nous choisis, tu me choisis pour servir en ta présence, maintenant. Et nous te présentons cette offrande prélevée sur les biens que tu nous as donnés. Regarde cette offrande avec amour, dans ta bienveillance, accepte-la. Eh bien, c'est cela que nous vivons lorsque nous prenons le joug de Jésus et nous lui présentons non seulement nos intentions de prière, mais les besoins du monde entier. Voilà, pas seulement nos besoins ou nos besoins limités à notre petit groupe local, ma famille, mon groupe de prière, ma paroisse, c'est déjà là, c'est bien. Mais voilà. L'enjeu, c'est le salut de l'humanité entière que j'ai à te présenter avec l'offrande de ma vie, purifiée préalablement, dépouillée, rentrée dans cette offrande eucharistique. Et vous voyez que donc, le temps d'adoration nous permet d'approfondir ce temps que nous vivons dans la prière eucharistique. Et d'ailleurs, dans le rituel de l'adoration, il est stipulé combien souvent l'adoration est conseillée doit se prolonger dans la suite d'une Eucharistie. Alors bien sûr, dans une adoration permanente, nous y venons pas forcément après une Eucharistie. Mais vous voyez que l'optique qui doit nous habiter, c'est la poursuite de l'offrande eucharistique qui se vit dans le silence des cœurs à cœur. Nous présenter au Seigneur et avec nous cette parcelle du monde. Et vous voyez que du coup, s'engager dans une adoration permanente, faire tenir une chaîne de prière, une telle chaîne de prière, c'est beaucoup plus que simplement, l'objectif, faire tenir une chaîne de prière. Non, l'objectif, c'est rentrer profondément dans la prière de Jésus, dans l'offrande même de Jésus, qu'il poursuit éternellement à la face de son Père. C'est la lettre aux Hébreux que vous pouvez relire dans cette optique qui montre cette très belle réflexion sur la transformation aussi qui opère dans le cœur de Jésus par son offrande, par sa prière. C'est magnifique ce que l'Épître aux Hébreux nous fait découvrir. Je n'ai pas le temps de vous le découvrir, de vous le dévoiler ou de vous le démontrer maintenant, mais c'est la seule lettre, c'est le seul écrit de toute la Bible qui opère, qui note cette transformation profonde qui s'opère dans le cœur même de Jésus par l'offrande de sa vie, cette offrande de prière. Toute sa vie n'a été qu'offrande et prière vers le Père. C'est dit de manière magnifique. Et il nous est dit que c'est en raison de cette attitude profonde que Jésus, Fils éternel du Père, est devenu grand prêtre, intercesseur éternel pour nous à la face du Père. C'est dans cette prière que nous sommes appelés à rentrer dans nos temps d'adoration en particulier. Rentrer dans cette participation. Vous avez de très beaux passages, de très beaux paragraphes que vous pourrez trouver dans le catéchisme de l'Église catholique sur toute la partie consacrée à la prière et notamment justement l'enjeu de la prière dite d'intercession, les numéros 2634 et suivants. Voilà. Nous sommes invités à rentrer dans la prière de Jésus pour porter avec lui une partie du fardeau du monde pour que le Père puisse faire son œuvre de salut, de guérison. Pas seulement pour un individu, mais pour l'humanité entière. Voilà donc ce qui est là un peu à l'œuvre dans ce que nous vivons et qui se déploie. Vous voyez que du coup c'est vraiment un ministère, c'est-à-dire c'est un service qui nous dépasse, qui n'est pas simplement pour nous faire du bien personnellement ou même du bien à notre petit groupe local. C'est un service universel que nous rendons. D'où l'importance de tenir dans la fidélité, dans la persévérance, et de faire en sorte que cette chaîne de prière puisse se poursuivre, effectivement, avec ardeur. Avec ardeur. Et vous voyez que, je terminerai par là, forcément que le temps passe, et il est temps de conclure. Vous voyez, l'enjeu donc de cette attitude d'adoration qui nous fait plonger dans l'attitude aussi d'offrande eucharistique, qui nous fait prolonger l'offrande que nous vivons dans chacune de nos eucharisties, qui nous transforme personnellement, participe à la transformation du monde. Et vous pouvez comprendre pourquoi, pour tenir dans la persévérance, parce que donc le défi de notre vie, c'est des jours plus des jours qui s'accumulent, et tenir la durée, ça demande donc aussi de la, je dirais, du renouvellement. Et voilà, nous sommes des hommes et des femmes de chair, concrets, donc nous avons aussi besoin de choses concrètes sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour pouvoir tenir. On ne peut pas rester uniquement sur le plan général, voilà, du salut de Dieu pour l'humanité. Nous ne sommes pas Dieu, et donc le plan de salut général pour l'humanité, ça nous dépasse. Donc on a besoin de quelques soutiens précis, particuliers. Et vous comprenez par là l'intérêt que le pape donne à l'Église régulièrement une orientation pour la prière. Alors vous pourriez vous dire, ben oui, mais dire, avec maintenant des moyens de communication, le pape il peut faire autre chose, il peut avoir d'autres préoccupations, et nous on peut trouver les sujets sur lesquels il est important de prier. Prier pour les réfugiés, eh bien, est-ce qu'on a besoin du pape pour nous dire qu'il est important de prier pour les réfugiés ? Oui, parce que de recevoir cette invitation à la prière par un autre que nous, et qui plus est quelqu'un qui est au service de l'Église entière, ça transforme aussi notre posture, ça nous aide à sortir, voilà, de nos préoccupations premières et de nous en remettre dans un esprit d'obéissance. Seigneur, tu as confié à ton Église, par ton serviteur, le pape François, mais avant c'est le pape Benoît, avant c'est le pape Jean-Paul, après François ce sera un autre, etc., ça se poursuivra. Il y a cette parcelle d'humanité pour laquelle il est important de tourner notre prière. Eh bien voilà, je le reçois en esprit d'obéissance et donc de serviteur, et je vais participer à ce service d'Église. Et donc, et parfois, je peux recevoir donc des objectifs de prière qui dépassent mes lieux de sensibilité première, mes lieux d'intérêt particulier. Tiens, il y a tel groupe de personnes ou telle région du monde, ça ne m'aurait pas du tout traversé l'esprit de prier pour cette catégorie de personnes ou pour cette partie du monde. Et bien justement, tu offres ta prière gratuitement et tu participes à une œuvre qui te dépasse, qui est l'œuvre de Dieu, et que tu reçois en esprit de serviteur. Et vous savez que donc, dans le jubilé, il était demandé, pour participer à la grâce du jubilé, pour passer les portes saintes, il y avait tout un tas de démarches qui étaient demandées. Donc, vivre une eucharistie, se confesser, et donc il était dit, dans ces démarches-là, prier aux intentions du pape. Vous voyez que c'est dans cette dynamique que quelque chose nous est rappelé. Et le drame, ça serait de dire, le jubilé est terminé, maintenant, on range ça consciencieusement dans le tiroir, et on le ressortira au prochain jubilé, juste lorsqu'il y aura d'autres portes saintes. Non, non. Cette attitude, elle a été réveillée pendant le jubilé, mais elle doit se poursuivre, puisque le reste de la vie de l'Église doit être porté aussi par ce message de la miséricorde, comme le dit le pape François. Et donc voilà, c'est des manières qui peuvent vous aider à peut-être maintenir ardente notre tenue dans l'adoration, l'adoration permanente, dans ce défi, dans ce ministère de l'adoration, pour le bien du monde entier, pour le salut du monde. On en reste là ? Voilà, il y a de quoi ruminer. Prenez appui sur les prières eucharistiques. Revisiter la lettre aux Hébreux, en particulier le chapitre 2, le chapitre 6 et le chapitre 7, hein, trois points d'accroche, et prenez appui sur ces deux grandes visions d'Ézéchiel, Ézéchiel 47, et l'invitation de Jésus, avance en eau profonde. Et vous savez, les besoins de notre monde, voilà, les défis auxquels nous sommes confrontés, le monde craque de toutes parts. travers les fractures, l'Esprit Saint peut agir, mais hélas, pas seulement l'Esprit Saint, il y a aussi l'ennemi de la nature humaine qui en profite pendant ces fractures. Et bien pour que ça soit vraiment l'Esprit Saint qui puisse prendre toute la place, il a besoin de notre prière, de nos offrandes. Amen.
Vous serez dans la chapelle d'adoration, notamment pendant ce temps de l'Avent. Oui. Vous verrez comme.
On peut dire en disant le. Étonnant que.
De déposer son cœur dans la chapelle de la visitation. Et là, tous les cœurs sont dans la chapelle Saint-Jean autour de l'autel. Donc, quand vous ne savez plus pour qui prier, bah, vous regardez un petit cœur en papier, vous en verrez seulement 20 en même temps, et vous dites bah, tiens, Seigneur, je te prie pour cette personne qui a déposé ce papier, ce cœur. Voilà. De la même manière, vous avez la corbeille qui reçoit les intentions un peu changées de forme, puisqu'elle nous a été remise par le sanctuaire du Sacré-Cœur du Burundi. Nous étions en mission ces derniers temps avec Franck. Et donc, quand vous voyez cette corbeille, vous pouvez prier pour ce qu'il y a dedans, mais vous pouvez prier aussi pour ce pays qui nous a donné cette corbeille, et pour le sanctuaire du Sacré-Cœur du Burundi. Alors, voilà des choses concrètes pour rentrer dans l'intercession aussi de là où on est. Comme disait Monsieur le Maire, à la fête de Sainte-Marguerite-Marie, Paris-Mignal, c'est beaucoup plus large que ce que l'on peut voir. Il nous avait témoigné de ça avec ses rencontres avec Arafat, avec Gorbatchev, et avec d'autres, qui nous ont montré la place en disant qu'en fait, Paris, ça dépasse carrément ce que l'on voit. Nous, on habite Paris, mais ben, ça va beaucoup plus loin. Et donc, quand on est dans cette chapelle, notamment, cette intercession peut continuer ça. Merci de venir.
Si vous voulez simplement aussi juste l'adresse d'un site pour donner de la matière ou de la chair sur, lorsque par exemple le pape nous appelle à prier pour une région ou une situation particulière qui ne nous parle pas spontanément, mais pour avoir du coup de la matière pour pouvoir nourrir notre entretien avec le Seigneur, vous allez donc sur le site prieraucoeurdumonde.net, prier au cœur du monde tout attaché, voilà, .net. Et vous avez en principe des outils qui sont là pour nourrir, pour vous aider, voilà, à demeurer dans cette prière d'offrande.
Après, vraiment à prier pour le Seigneur. Donc ça, c'est une annonce qui vient de la part des pompiers quand vous entendez des sonneries très stridentes. Merci de quitter la chapelle. Dernièrement, il y a eu un test incendie qui a été fait et les pompiers ont pu remarquer que les adorateurs sont restés en prière devant le Saint-Sacrement. C'est bien de pouvoir prier pour le Seigneur au même moment, penser à votre sécurité quand même. Tout à l'heure, on a fait lever ceux qui étaient là depuis 10 ans. Quels sont ceux qui sont là depuis moins de 1 an? Il y a quand même quelques-uns qui sont cachés pour certains au fond. Bienvenue à vous aussi. Alors, c'est bien de voir qu'il y a des nouveaux aussi qui arrivent. Alors, peut-être pour les nouveaux, on va peut-être représenter un petit peu toute l'équipe qui est là autour de notre curé et notre recteur. D'abord, il y a Fabienne, cachée là-bas. Bien devant. Je ne veux pas parler. Voilà. Comme ça, vous voyez. Non, il reste. Ça le prendra des noms aussi. Après, voilà, avec Fabien, on est responsable de. On essaye de faire que nous trouvons quelqu'un. Heureusement, on peut s'appuyer sur. Qu'on appelle des responsables de division, représentés. Donc pour la nuit, il y a Blanche, de 0 à 6 heures. Parce que je dis Blanche. Ouais, pour les nouveaux, c'est bien parce que si vous cherchez des créneaux et des heures d'adoration, ça peut vous aider d'aller voir les uns les autres. Après, de 12h à 18h, il y a Marie-Thérèse. Et de 18h à minuit, il y a Martine. Marie-Thérèse et Martine, venez.
Allez, approche-toi, Marie-Thérèse.
Alors, vous pouvez remarquer qu'il n'y a plus personne. Moi, j'ai appelé personne pour le matin. De 6h à midi. Donc, voilà, si l'un ou l'une ou l'autre se sent de venir renforcer un petit peu l'équipe. Voilà. Alors, responsable de division, ce n'est pas très dur. Hein. En fait, c'est s'assurer que. Voilà, c'est passer les informations. Responsable de tranche horaire, et puis voilà, s'assurer qu'il y a toujours quelqu'un. Donc, ça va. apporter. Oui, on y a bien droit sur les armes. Donc si quelqu'un a envie d'être responsable de division du matin, alors même si c'est pas un adorateur du matin, c'est pas grave, c'est pas, voilà. N'hésitez pas à aller voir Fabienne. J'en profite pour remercier Sophia qui l'a fait pendant pas mal d'années. Voilà, mais quelqu'un, voilà, effectivement. On lance un appel à l'aide. Alors Martine le disait, il y a quelques heures à pourvoir. Aujourd'hui, il y a 15 heures sur l'ensemble de la semaine qui ne sont pas pourvues. 15 heures, ça fait plus d'une demi-journée. Heureusement que le Seigneur n'est pas seul pendant tout ce temps-là, mais c'est pas forcément temps. Il peut se retrouver seul, c'est pas forcément qui peut être là. Donc n'hésitez pas. Alors pour ceux qui n'ont pas encore de créneau, c'est l'occasion de prendre un engagement. Et puis après, c'est l'occasion aussi d'en parler autour de vous. Alors pendant longtemps, il y avait un tableau qui était affiché tous les mois à l'entrée de Saint-Jean, sur lequel vous pouviez aller noter les horaires. Voilà, mais bon, tout le monde n'est pas forcément au courant. On voudrait essayer un nouveau système en remplacement de ce tableau. Donc, je vous le présente pour que vous puissiez en parler autour de vous. Pour que toutes les personnes qui souhaiteraient aller adorer mais qui ne peuvent pas s'engager dans la durée. Donc en fait, nous communiquerons leur adresse mail et tous les mois on dirait voilà les horaires qui sont disponibles et puis les gens pourraient sélectionner l'horaire qui les arrangerait. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin d'aller adorer une première fois pour savoir que par exemple le dimanche de midi à 1h, il n'y a personne. C'est-à-dire tous les mois vous recevez une alerte qui vous dit ah, il y a un tableau qui est à jour et puis vous pouvez aller voir. Et par exemple, Bénédicte a envie d'aller adorer le dimanche de midi à 1h. Ce dimanche-ci, appelle le sélectionne, elle dit moi je vais y aller. Si Martine regarde 10 minutes après, le dimanche de midi à 1h n'est plus disponible. Voilà. Alors c'est pas un système pour que vous restiez tranquillement assis chez vous et que vous attendiez que quelqu'un d'autre aille adorer à votre place. On est bien d'accord. C'est pour essayer de pourvoir. Donc parlez-en autour de vous parce que voilà, il y a énormément de gens. C'est vrai que peut-être. Des parents qui ne peuvent pas forcément prendre un engagement sur l'année, des jeunes ados. Alors c'est vrai que ce serait beau aussi un parent et enfant qui iraient adorer ensemble, voilà. Des étudiants qui ne sont pas là tout le temps, voilà. Tout le monde. Donc parlez-en autour de vous. Si vous-même vous êtes déjà, vous dites, moi j'y vais déjà 1h, j'y vais, mais pourquoi pas? J'irai bien de temps en temps 1h en plus. Il y a des feuilles là-bas à l'entrée sur le petit pupitre où vous pouvez inscrire votre nom, votre prénom et puis votre adresse mail pour que je puisse vous envoyer la première liste qui sera diffusée. On va essayer comme ça pour voir si effectivement on arrive à diffuser plus et à motiver des adorateurs aussi moins réguliers, en tout cas pour l'instant. Il n'y aura plus la feuille.
Est-ce
qu'il y aura mon contact à l'entrée? Il y aura mon contact à l'entrée. Je vais peut-être même créer une adresse spécifique pour que je n'ai que ça sur cette adresse mail. Parce qu'après. Il y aura mon téléphone. Il y a déjà le téléphone des responsables, Et puis bon, il suffira de me laisser un petit message et puis moi je dirai les horaires qui restent, je prendrai le temps de rappeler. Ou à la maison paroissiale, ils auront aussi la possibilité d'accéder sur cette liste. Voilà.
Nous sommes combien
à peu près, parce qu'il y a certaines tranches où il y a deux personnes, je dirais, on est à peu près 7 fois 24, à peu de choses près. Donc vous comptez à peu près 150. Voilà. On n'est pas loin des 150. Réguliers. Plus quelques milliers de non réguliers. Voilà. 150 à prendre régulièrement une heure d'adoration. Voilà, parce que sur certains créneaux, on est deux. Sur d'autres, on est un. Et sur d'autres, il n'y a personne. Voilà.